autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour cette dernière semaine de rediffusion estivale. Avec Hugo Violas à la réalisation, nous vous proposons de remonter le temps sur les traces de nos ancêtres, humains et pré-humains. Retour sur les grandes expéditions paléontologiques en Afrique de l'Est, en Éthiopie, au Kenya, qui depuis les années 1970 ont révolutionné toutes nos connaissances sur les origines de l'homme, aboutissant notamment à la découverte de la plus célèbre des australopithèques, Lucy. Une femme, géologue, biologiste et palynologue, spécialiste de l'étude des pollens, a participé à ces expéditions internationales. Ses recherches ont été capitales pour la connaissance du milieu, des paysages et de l'environnement dans lequel vivaient ces hominidés. Le rôle de cette chercheuse, une des rares femmes sur ce terrain presque exclusivement masculin, a longtemps été occulté, presque effacé de la photo. Heureusement, Raymond Bonnefille s'est décidé à raconter, à partager ses extraordinaires aventures scientifiques et humaines dans un ouvrage paru chez Odile Jacob sur les pas de Lucy, expédition en Éthiopie. Nous vous proposons de réécouter cette émission, cette rencontre avec une femme remarquable, diffusée le 25 mars dernier, autour de la question « Pourquoi et comment remonter sur les pas de Lucy ?» Bienvenue tout de suite sur les pas de Raymond Bonnefille.
Ah, ma chère amie Raymond Bonnefille. Bah, d'abord, je te salue, je te fais une très grosse bise. Et Raymond Bonnefille, elle n'est pas assez connue parce qu'effectivement, dans la grande aventure de la paléanthropologie moderne, qui comprend aussi celle de l'éthologie moderne, on a beaucoup parlé effectivement du côté anglo-saxon, de Jane Goodall, de Liane Fossé, etc. Eh bien, chez nous, nous avions aussi de grandes françaises et Raymond Bonnefille en fait partie. Donc, elle est aussi la maman de Lucy. On a beaucoup parlé des papas, mais il y avait une maman et il y en a d'autres.
Bonjour Raymond Bonnefille, maman de Lucy.
Bonjour.
Comme l'a rappelé à juste titre le paléanthropologue Pascal Pic, Raymond Bonnefille, même si votre rôle essentiel dans ces expéditions internationales dans le Rift Est africain, votre rôle a longtemps été oublié, presque occulté, pour le moins sous-estimé. Je rappelle que vous êtes biologiste, géologue de formation, directrice de recherche émérite au CNRS, vous êtes palynologue Raymond Bonnefille, pionnière et spécialiste internationale de l'utilisation des pollens pour la reconstitution de l'histoire des forêts et des paléoclimats en Afrique. C'est à ce titre que vous avez participé sur tous les terrains d'Afrique de l'Est à ces grandes expéditions internationales. Votre témoignage nous est donc précieux et vous venez enfin, si j'ose dire, de publier sur les pas de Lucy le récit de ces expéditions en Éthiopie. Pourquoi maintenant Raymond Bonnefille? Pourquoi ne pas avoir fait entendre votre voix, ou plutôt aujourd'hui votre plume, pourquoi ne le faire que maintenant?
Alors parce que ensuite j'ai fait beaucoup d'autres choses, de travail en Afrique, en Inde, qui m'ont occupé largement. Si vous voulez, j'ai gardé des expéditions africaines de cette première période, des souvenirs qui sont restés très vivaces dans ma mémoire. Et quelque part, il revenait dans des rêves, voilà, c'est le problème de la mémoire et des choses comme ça. Et il revenait très présent. Donc, il me semblait qu'il avait, j'ai été animée d'une sorte de nécessité de les mettre sur le papier. Alors, quelques années auparavant, nous avions décidé d'écrire avec un des géologues, Jean de Heinzelin, d'écrire une histoire scientifique de cette expédition qui était précurseur des découvertes qui vont, des importantes découvertes que l'on connaît tous et qui était mal connue. Et puis ce personnage a disparu prématurément. Donc quelques années plus tard, pour moi, écrire sur scientifiquement, c'était trop tard. Donc j'ai dit, je vais raconter tel que je me souviens de l'histoire de cette expédition. Et j'ai pu vérifier avec mes collaborateurs que nous avions tous un souvenir un peu particulier, parce que c'était une expérience absolument à la fois scientifique et humaine très très riche.
De toutes ces expéditions donc en Éthiopie, alors c'est aussi une manière de nous faire partager votre discipline, la palynologie, parce que chasseuse de pollen, c'est nettement plus discret que les chasseurs d'os qui trouvent les fossiles humains.
Oui,
primes.
Oui, voilà, peut-être que j'ai trouvé ce moyen pour avoir le plaisir d'aller sur le terrain et de participer justement à ces recherches sur les ossements. Donc j'ai développé cette spécialité parce que le domaine de la géologie et le domaine de la paléontologie de l'anthropologie était très masculin, encore peut-être plus que maintenant, mais bah, il l'est
presque
encore.
Presque exclusivement masculin, hein, on entend.
Ah, presque exclusivement, oui. Donc, voilà, lorsque j'ai été contactée par Yves Coppens, qui dirigeait cette expédition dans la vallée de l'Omo, à l'époque, la théorie sur, disons, le passage de la forêt à la savane, qui expliquerait une partie de l'hominisation de nos ancêtres, j'ai proposé de reconstituer la végétation ancienne, puisqu'à ce moment-là, j'ai dit, mais moi, une forêt, une savane, je dois pouvoir reconnaître en me servant des pollens fossiles. Les pollens des fleurs, qui sont des millions de grains microscopiques.
Et qui se conservent, ils se sont conservés.
Alors, la paroi est une matière extraordinaire qui se trouve conservée. Voilà. Alors, on appelle cela fossilisé, mais ça ne vient pas des pierres, c'est une sorte de matière organique et il faut faire une petite cuisine chimique pour les rendre transparents au microscope.
Et ça permet, hein, c'est pour ça que votre rôle en tant que géologue et palynologue, de faire la cartographie géologique du terrain, de se rendre compte de ce que c'était que le paysage à l'époque de Lucie.
Oui, alors ce sont deux... Voilà, il y avait une autre idée, c'est qu'effectivement, il fallait connaître le paysage actuel qu'on connaissait, vous savez, à cette époque, et surtout ce coin reculé de l'Éthiopie, aux confins du Kenya, du Soudan, c'était vraiment pas connu du tout.
On ne connaissait finalement rien ni d'aujourd'hui ni d'hier, enfin on ne connaissait pas bien du tout.
Ah non, on connaissait rien du tout, et puis vous savez, l'Éthiopie même à cette époque, et l'Éthiopie centrale était... sur les plateaux, donc même les Éthiopiens ne connaissaient pas cette région qui est une région peuplée de nilotiques. C'est donc de peuples nilotiques. Ce sont de tous ceux qui sont sur la vallée du Nil, donc là de l'Omo. Aujourd'hui, on parle des peuples de l'Omo, de leur richesse culturelle. Donc, si vous voulez, c'est...
Le terrain était vierge complètement.
Voilà, c'était fascinant. C'était fabuleux. Il était vierge. Il y avait ce professeur du muséum, Camille Arambourg, qui avait fait cette expédition un peu solitaire en 1933, qui avait posé les bases et indiqué que ce terrain était très intéressant et que les fossiles qu'on y trouvait étaient très intéressants.
Oui, parce qu'on ne cherche jamais par hasard. Voilà, on ne va pas par hasard dans la vallée de l'Omo en Éthiopie pour chercher des fossiles. Pourquoi cette région est si importante et si riche? Parce qu'elle l'a gardée, ces fossiles?
Oui, parce qu'il y a un grand lac qui reçoit les eaux d'une rivière qui descend du plateau d'Éthiopie. Il y a le Grand Delta. Et ce lac a fonctionné pendant des millions d'années en accumulant, les niveaux ont varié, donc vous avez une accumulation de sédiments absolument extraordinaire pour les 3, 4 derniers millions d'années, même 5. Donc, alors, il y a cela et il y a le contexte historique, c'est-à-dire nos prédécesseurs. Ça, dans le livre, je détaille un petit peu, donc en particulier, cette expédition d'un Obereau associé à un médecin qui va devenir un grand patron de la médecine tropicale à Paris. Ils ont fait des photos, vous vous rendez compte, ces photos sont dans les archives aujourd'hui du musée du Quai Branly. Et puis, il y a une histoire... qui a trait à la guerre de 14, à des rencontres de scientifiques à la guerre de 14, qui font que le paléontologue à Rambourg monte sa propre expédition pour comprendre là l'origine des animaux africains. Parce que vous savez, à l'époque, il y a 3-4 millions d'années, il y a plein d'animaux qui sont différents de ceux d'aujourd'hui. Il y avait une diversité extraordinaire. Donc des girafes de toutes sortes, des éléphants de toutes sortes. Donc il voulait comprendre l'origine de la faune africaine moderne. Donc il avait monté une petite expédition et il avait laissé, les collections sont au muséum à Paris, il avait écrit des ouvrages et... Les ouvrages sont lus par des scientifiques anglais, américains, il y avait quand même... Et à la suite d'une circonstance un peu particulière, qu'un dîner que je raconte avec l'empereur d'Éthiopie et le tout nouveau président du...
L'empereur d'Éthiopie, rien que ça, hein, Haïlé Sélassié.
Oui, voilà, Haïlé Sélassié. En 1959 et 1960, il y a une rencontre qui déclenche le démarrage, la mise sur pied de grandes expéditions internationales.
En Éthiopie, autour de la question pourquoi et comment remonter sur les pas de Lucie. Alors pour vous, Raymond de Bonnefille, il s'agissait sur le terrain de récolter les pollens, de les identifier. Hein. C'est ça le métier de palynologue, et ça commence toujours sur le terrain. Je propose à ce sujet l'éclairage enregistré sur le terrain, justement, dans la vallée de l'Omont en Éthiopie, où notre reporter Charlie Dupieux a suivi cet été une mission de fouilles dirigée par Arnaud de Boisserie. Sur place, elle a rencontré Doris Barboni, une jeune palynologue que vous avez formée. Raymond Bonnefille, qui a été votre élève. Doris est aujourd'hui spécialiste des microfossiles de plantes au Centre européen de recherche et d'enseignement en géosciences de l'environnement. Charlie Dupieux l'a rencontré dans cette formation dite de Chungura, dans la vallée de l'Omont. Petit sac d'échantillons à la main, elle lui a demandé ce qui l'intéressait tant dans les pollens et les phytolithes, les microfossiles de plantes.
C'est d'abord la passion de l'évolution humaine. Quel est l'impact de l'environnement, du changement d'environnement sur l'évolution de l'homme? Est-ce que ça a été si important que ça ou pas? Ou est-ce que l'évolution de l'homme s'est faite indépendamment des changements environnementaux? Ça m'intéresse. Ensuite, moi, les plantes me fascinent. Je ne suis pas botaniste dans le sens où je ne saurais pas reconnaître les espèces, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je suis intéressée par leur stratégie de survie. Et donc, ce que je trouve fabuleux, c'est que peu importe où on est dans le monde, si on a les mêmes caractéristiques climatiques, on va retrouver des espèces différentes, mais avec les mêmes caractéristiques morphologiques. Les tailles de feuilles, les feuilles coriaces, la présence d'épines. Et ça, c'est une approche qui permet d'utiliser les plantes comme marqueur du climat, indépendamment des espèces. C'est aussi quelque chose d'intéressant qu'avait montré Raymond Bonnefille dans les années 70, que les pollens trouvés dans les sédiments de 2,5 millions d'années de Chungura ressemblaient complètement aux pollens des plantes actuelles d'Éthiopie. Les roseaux, après on peut avoir aussi des plantes ligneuses, les arbres qui poussent préférentiellement dans les zones humides, on a beaucoup de figuiers par exemple, certains types d'acacias, donc on a sûrement les mêmes espèces de plantes aujourd'hui comme il y a 2,5 millions d'années dans cette vallée de l'Omont.
Vous voulez réagir, Raymond Bonnefille, à cet éclairage de votre élève, hein, Doris Barboni, qui rappelle que c'est vous qui avez démontré que ces pollens trouvés dans les sédiments de Chungura datent de 2,5 millions d'années, ressemblent aux pollens des plantes actuelles d'Éthiopie.
Oui, c'était, l'étude des pollens dans les années 60 était développée par la communauté des botanistes. On venait de mettre au point des microscopes optiques performants. C'est le début aussi de microscopes qui grossissent beaucoup plus les objets microscopiques. Et la palynologie, initialement, elle a été étudiée dans les pays nordiques et où on avait montré que les fluctuations de la végétation, au fur et à mesure que la calotte glaciaire se réduisait, les zones en bordure étaient d'abord peuplées par la toundra, puis ensuite par une forêt qui devient de plus en plus chaude avec des espèces, des feuillus et des choses comme ça. Et sur l'Afrique, il y avait des descriptions un peu morphologiques. Un laboratoire de Montpellier qui avait initié les études, mais c'était rarement appliqué à des dépôts très anciens. Donc c'était pour moi une gageure d'avoir dit, mais attendez, dans le Pliocène, qui date entre 5 et 2 millions d'années, je vais pouvoir utiliser cette méthode. Donc il m'a fallu faire tout un travail pionnier qui a consisté à faire la description, à la fois dans des ouvrages, mais établir aussi des collections de références qui sont au laboratoire aujourd'hui, auquel appartient Doris Barboni. Donc nous sommes attachés à reconstituer la diversité, parce que ce qui me semblait intéressant, c'était, bon, j'étais frappée par la diversité au cours de des premières expéditions, de la végétation, et on utilise le mot de savane dans un sens large qui occupe, en fait, pour un type de végétation qui occupe de grandes étendues en Afrique.
C'est un mot fourre-tout finalement.
Oui, c'est un mot fourre-tout, c'est un paysage un peu vague. Les journalistes à l'époque, ils utilisaient le mot de la brousse africaine, c'est un terme colonial. Et donc voilà, je voulais plus de précision parce qu'effectivement, dans les conditions climatiques, ce qui est important dans ces régions, ce sont que c'est des régions à climat saisonnier. C'est-à-dire qu'il y a une alternance d'une ou de deux saisons des pluies avec une saison sèche plus ou moins longue. Et que cette saison sèche, bon, même si les caractères morphologiques des plantes dont parle Doris restent les mêmes, en fait, il y a une durée, c'est important qu'elle soit de 3 mois ou qu'elle soit de 7 mois. C'est important pour la végétation, bien sûr, mais c'est important aussi pour les êtres, tous les animaux et les hommes, bien sûr. Les primates auxquels nous appartenons, singes ou hommes, ont besoin d'eau douce.
Voilà pourquoi c'est fondamental de reconstituer, effectivement, à partir des pollens, l'environnement, mais aussi le climat, hein, les paléoclimats. Oui. Alors, comment est-ce qu'on collecte ces pollens? On vous voit en photo, très jolie photo, avec un de vos, de vos aides éthiopiens aussi, en train de mettre un piège à pollen, c'est
oui,
ça?
Oui, oh, ça c'est une petite anecdote, ça ferait bien sourire les chercheurs qui aujourd'hui ont des grosses oui. machines. Non, mais c'était tout simple. C'est-à-dire que la région n'ayant été pratiquement pas prospectée, j'ai collecté des plantes que j'ai fait identifier dans les herbiers, mais en fait, je ne pouvais pas tout collecter. Donc je me suis dit, mais voilà, si je collecte les plantes d'une façon, le pollen, hein, la poussière qu'on est dans l'atmosphère, sur une boîte de pétri avec de la glycérine, je vais avoir un assemblage de ce qui est dans la végétation actuelle pour pouvoir le comparer après avec ceux que je trouverai dans les fossiles. Donc ça avait beaucoup plu parce qu'il y avait une petite émission de télévision, une équipe de télévision qui était venue sur place où je raconte les anecdotes d'une plaisanterie de potage qu'on avait fait avec eux. Et donc, ce dispositif leur avait beaucoup plu, d'où la belle photo que vous avez dans mon livre.
Très belle photo. Et ce qui explique aussi que vous avez intéressé. Alors, non seulement vous êtes une femme dans un milieu exclusivement masculin, je ne sais pas comment vous avez fait, mais en plus, vous êtes une femme qui avait participé, vous avez intéressé aussi les Américains, à la fois aux expéditions françaises et aux expéditions américaines. Vous étiez vraiment... espèce de pont entre tous ces paléontologues, des hommes, des mâles alpha, on va dire, hein, et vous au milieu, sur ces terrains, sur le terrain en Éthiopie.
Oui, j'ai peut-être été entourée aussi de gens assez exceptionnels, auxquels je rends hommage dans le livre avec des beaux portraits. Oui, eh bien, écoutez, je ne sais pas, moi ça m'a beaucoup plu ce genre de travail, c'était une vraie passion.
Dans des conditions difficiles quand même, et à l'époque il n'y avait pas de liaison.
Oui, les conditions les plus difficiles sont la chaleur, l'inconfort matériel. On avait quand même, dans la vallée de l'Omo, c'était quand même une très très grosse expédition. Je pense que les conditions dans lesquelles Doris est allée sont beaucoup plus limitées. Bon, on a des moyens modernes qui permettent d'y aller rapidement, il y a des routes, nous il n'y avait pas de route, il y avait le tout-terrain... Il n'y a plus d'animaux sauvages tels qu'il y en avait, on était obligé de faire...
Et vous avez conduit sur ces routes hein.
Ah oui, dans la phare, oui, quand j'ai dû aller les 700 km qui descendaient depuis Addis Abeba, là, c'est une mémoire.
Oui, vous le racontez, vous racontez comment vos accompagnateurs n'étaient pas tellement rassurés qu'il y ait une femme au volant sur ce genre de piste.
Ah oui, ça c'était les locaux de la tribu des Afars, oui, ça c'est plus tard. J'avais déjà 6 ans d'expérience dans la vallée de l'Omo.
Alors qu'est-ce que c'est que 700 kilomètres sur des pistes?
J'étais très fière.
Vous n'êtes pas dans la concurrence, en tout cas jamais. Hein. On sent bien que vous parlez à la fois de tous ceux qui vous accompagnaient, des grands paléontologues. Si on vous a parfois effacé de la photo, hein, au sens propre comme au sens figuré, vous n'effacez personne de la photo.
Ben oui, peut-être c'est une sorte de bienveillance et de reconnaissance. Je crois que c'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut cultiver.
Bien d'accord. Autour de la question, pourquoi remonter sur les traces de Lucie? Avec vous, Raymond de Bonnefille, réponse à suivre en musique avec Yikerta, la sirène éthiopienne. Le morceau s'intitule « Minyechou », ambiance éthiopique.
Sen kuş, dikamış.
Yikerta, la sirène d'Éthiopie sur RFI, ça vous plaît, Raymond Bonnefille?
Oui, beaucoup, oui, oui, ça me rappelle l'ambiance. C'est vraiment un pays fascinant, l'Éthiopie.
Autour de la question, comment remonter justement en Éthiopie sur les pas de Lucie avec vous, Raymond Bonnefille, géologue et paléontologue. Vous êtes une des rares femmes, on le rappelle, à avoir participé aux grandes expéditions paléontologiques en Afrique de l'Est. Et vous nous faites enfin partager vos aventures scientifiques et humaines dans un ouvrage chez Odile Jacob sur les pas de Lucie, ouvrage préfacé par celui que l'on surnomme le père de Lucie, le célèbre paléontologue Yves Coppens, que nous avions reçu ici même pour la parution de ses mémoires. Je propose de l'écouter, d'écouter Yves Coppens nous raconter lui aussi ses premiers terrains de fouilles sur le continent.
D'un coup, je suis parti de France en Afrique tropicale, quoi. Et donc, j'ai été jeté tout de suite dans ce Sahel brûlant. Et ça a été une grande révélation. Je la cherchais, je m'y attendais, je l'espérais. Et j'ai été le plus heureux des petits mammifères.
Est-ce qu'on s'habitue? Enfin, je veux dire, est-ce qu'une découverte chasse l'autre? Est-ce qu'on s'habitue? Parce que c'est très impressionnant. Moi qui ai eu la chance de pouvoir parfois m'approcher de fossiles, c'est impressionnant. Oui, ça fait quelque chose à l'intérieur.
C'est impressionnant parce que c'est d'abord une personne, comme je l'ai dit, d'autre part. Cette personne, elle est transformée par le temps, elle est transformée par le terrain, elle est transformée comme une sculpture par la nature, et ça devient donc un petit peu autre chose, mais ça reste quand même la personne d'origine. Et quand vous dites une découverte chasse l'autre, non, pas du tout, pas du tout. C'est cumulatif, c'est-à-dire qu'une découverte s'ajoute aux précédentes, mais ça ne les élimine pas pour autant.
Est-ce que ça fait une différence en tant que préhistorien, que paléontologue, des restes préhumains, des restes humains? Est-ce que ça fait une différence?
Non, je ne peux pas dire que j'ai moins de respect devant Lucie, qui n'est qu'une préhumaine, que devant un véritable humain, et que l'on appelle Homo habilis ou Homo erectus, etc. C'est la même sorte de respect, et donc je ne peux pas faire une différence au moment où la différence anatomique se manifeste. Moi, il n'y a pas de différence dans ma tête et dans mon esprit.
Et Yves Coppens, est-ce que ça change un homme, justement, que de passer sa vie avec les hommes d'avant, avec les hommes d'ailleurs, avec d'autres hommes, hein, puisqu'il y a eu de nombreuses espèces d'hommes sur Terre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce que ça change un homme, ça?
Oui, je ne sais pas. C'est pas à moi de juger, parce que comme je suis dedans, je ne me rends pas bien compte. Ce que j'entends dire à l'entour, c'est que peut-être que ça donne une distance, ça, sans doute. Une distance à la fois dans l'espace, bien sûr, mais une distance incontestable dans le temps. Et cette distance, elle permet peut-être, hein, je ne veux pas être prétentieux, de mieux apprécier ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Or, dans l'existence, réfléchissez un tout petit peu, et je suis sûr que vous le faites abondamment, il n'y a pas grand-chose d'important.
Vous êtes d'accord avec Yves Coppens?
Ah, oui. Yves est quelqu'un... Alors, si vous voulez, la grande différence... J'ai lu son livre et je me suis...
Sur origine des hommes et origine d'un homme.
Voilà. Et alors, ce qui m'a beaucoup étonnée, enfin, ça ne m'a pas étonnée, mais j'ai découvert que lui, il avait eu une vocation très jeune. Il raconte dans son livre, et c'est très intéressant, là, c'est en Bretagne, il était déjà intéressé par l'histoire des époques d'il y a quelques milliers d'années. Ma carrière est tout à fait différente.
C'est presque par hasard que vous êtes devenue...
Oui, alors, c'est par hasard. Si vous voulez, moi j'avais une carrière toute tracée, mais, bon, qui vient d'un milieu peut-être plus modeste, dans plus rural, et je suis un pur produit des écoles de la République, avec l'école normale primaire, l'école normale supérieure, 2 ans de professorat. Et donc, cette possibilité d'aller en Afrique a été pour moi un déclenchement et une ouverture. En plus, elle se passe en 1968, donc c'est une superposition avec cette période qui, quand même, est assez spéciale.
De liberté, de possibles.
Et cette découverte de l'Afrique qu'il a eu, ce qu'il dit, ce choc avec le Sahel qu'il a eu dans ses recherches sur le Tchad, qui ont précédé celle de la vallée de l'Omo, mais moi je l'ai eu dans la vallée de l'Omo.
Un choc, oui, vos premiers.
C'était vraiment un émerveillement. Vous savez, je suis arrivée en petit avion Donc déjà, arriver à Nairobi et puis après prendre le petit avion, survoler le Rift avec le docteur Hanchbury qu'on appelait Mamad Daktari, le docteur volant, dont je fais le portrait aussi dans mon livre. Et puis donc arriver sur le terrain, accueilli par Yves Coppens, sa femme, le campement, on avait des Land Rover, enfin c'était l'aventure africaine. Et puis alors les animaux sauvages, être immergé dans cette nature immense, vierge de tout impact. On rêvait le rêve de 1968, on disait que c'était un retour aux sources.
Oui, finalement, c'est ça que vous avez vécu. Et même pas peur, jamais peur.
Non, alors ça c'est un Africain, une fois, qui m'a dit, un chef africain. Ça, c'est lorsque je travaillais au Burundi, après j'ai fait des études de pollen au Burundi. M'a dit, mais c'était aussi une période difficile d'une autre façon. Vous n'avez pas peur. Et c'est vrai, je pourrais raconter des histoires, mais je ne les raconte pas, ou dans lesquelles je me suis trouvée dans une situation difficile avec une sorte de sang-froid. Ça, c'est, vous savez, c'est inné, je ne sais pas d'où ça sort.
Vous dites que vos origines paysannes sont peut-être un peu.
Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous le dire, mais je pense que c'est aussi peut-être cette. J'avais de la jeunesse, de l'enthousiasme, mais c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pu continuer dans toutes les expéditions, parce que je les ai fait presque toutes, pas seulement anglaises, mais aussi anglaises, et ensuite, après...
Alors à chaque fois, presque toujours pratiquement la seule femme, vous racontez un épisode de douche, je ne sais pas si on va s'étendre là-dessus, vous avez envie de nous le raconter, parce que c'est je trouve qu'il est parlant. Tout seul.
Ah, vous trouvez qu'il est parlant tout seul? Oui, alors dans le camp de. C'était lorsque je participais à l'expédition américaine, donc on était à quelques kilomètres de la rivière, le campement était. Et disons que la corvée d'eau était quelque chose qui. Il fallait beaucoup d'eau, donc pour. Et les ouvriers et les chercheurs, les jeunes chercheurs, qui étaient des thésards américains pour la plupart, aller à la rivière. Et ils étaient, ils prenaient leur douche en étant arrosés avec un jet d'eau et une pompe. Et les seniors, donc les deux ou trois seniors qui étaient là, les deux, simplement, de Hazem et Clark Howell, le chef de camp, le professeur de Berkeley, nous avions eu droit à une douche. Et la douche, elle était sur un promontoire et elle n'était pas fermée, elle était ouverte sur la nature, voilà. Et donc, il y a eu un petit incident où un jour, j'ai été interdite de douche et je ne savais pas pourquoi.
Et vous l'avez assez mal pris parce que ce n'était pas juste.
C'est surtout qu'on ne m'expliquait pas la raison.
C'est ça.
Et que je l'ai pris, et alors je l'ai pris comme une sorte d'insulte à ma féminité féminine, quoi, voilà. En fait, il y avait.
Il y avait rien qui protégeait des regards, et donc vous étiez un peu regardée.
Par les soldats éthiopiens, ces jeunes gens qui s'ennuyaient dans la. Les pauvres.
Voilà, mais sauf qu'on ne vous l'avait pas dit. Alors vous nous racontez, outre tous ceux que vous avez rencontrés, vous nous racontez évidemment cette découverte de Lucie qui a quand même changé, marqué les choses en 1974.
14, oui.
Elle a été préparée sur ce terrain, c'est la suite de nombreuses recherches,
nombreuses années, oui.
Mais en même temps, elle a aussi été bricolée. Enfin, je veux dire, j'exagère un peu, mais une sorte de bricolage entre le géologue Maurice Taïeb et puis Yves Coppens. Vous nous racontez à la fois on vous citait Pasteur, le hasard ne favorise que quelques esprits préparés, on ne cherche pas par hasard, vous cherchez depuis longtemps, mais en même temps, il y a aussi du bricolage.
Oui, parce que, si vous voulez, elle se situe, c'est la fin déjà du financement des grandes expéditions internationales. Bon, donc les seniors de ces expéditions, on avait eu des rencontres avec des congrès, et alors, il y avait donc les thésards plus jeunes, et avant l'expédition de l'Homo, j'avais travaillé sur le plateau éthiopien, sous la direction de Jean Chavaillon, avec Maurice Taïeb, qui est un géologue, qui était parti explorer la vallée moyenne et la basse vallée avec un autre géologue américain. Et bon, tout ce petit monde se rencontre, donc on avait discuté, et l'idée, Maurice avait trouvé des fossiles qui ressemblaient à ceux que l'on connaissait dans l'Homo, et à ceux qui étaient connus aussi en Tanzanie, et qui... ces dépôts qui contenaient des restes fossiles de nos ancêtres, qu'on appelle des hominidés, entre parenthèses. Bon. Donc voilà, l'idée a émergé de monter un petit groupe, et c'est Maurice Taïeb qui en avait pris l'initiative, dans lequel il y avait Donald Johansson qui avait aussi fait ses classes dans la vallée de l'Omo. Et donc nous avions tous les quatre, avec Yves Coppens, la connaissance de la succession à la fois des animaux et des dépôts qui entourent le lac Turkana, la vallée de l'Omo. Et donc quand les dépôts inconnus de la DAR sont apparus, il était évident qu'ils étaient d'une richesse extraordinaire et que peut-être les hominidés étaient là. Et effectivement, la chance a souri à ce petit groupe.
Lucie était là, la chance a souri à ce petit groupe, en clin d'œil à ces années éthiopiennes. Je vous propose d'écouter le remix par Bob Marley en version reggae d'un discours d'Allié Selassie, ex-empereur d'Éthiopie, dieu vivant des Rastas, que vous avez croisé, Raymond de Boffy. On va y revenir après avoir écouté Bob Marley. Haïlé Selassie, c'est tout de suite sur RFI.
Far as a prince of peace.
አንዱ ዘር ከሌላው ዘር ይበልጣል ይሻላል የሚባለው እምነት ዋጋ እንዲያጣ ሆኖ ካልተወገደ በአንድ አገር ውስጥ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ዜግነት ካልተሰረዘ አንድ ሰው በቆዳው ቀለም ብቻ የመብቱ መጓደል ካልቀረ ለሁሉም ሰው የዘር ልዩነት ሳይታሰብ ኩሬን ኢኮኖሚክና ተመሳሳይ ሰብአዊ መብት ካልተሰጠው እነዚህ በዚህ ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት ሁሉ እስከተፈጸመበት ቀን ድረስ ሁላችንም የምንደግምለትና የምንመኘው የዓለም በደንብ መተዳደር ይደረስበት የማይቻልና እንደዚሁም ዓለም ላይ ሰላም ጸንቶ እንዲኖር የምናደርገው ሙከራ ሁሉ ባዶ ምኞትና መና ሆኖ የሚቀር ግብ እንዳይሆን የሚያሰጋ መሆኑ አስተምሮናል። በደቡብ አፍሪካ ባንጎላ በሞዛምቢክ የሚገኙ ወንድሞቻችን ካሉበት የባርነት ቀንበር ነፃ እስኪወጡ ድረስ መላው አፍሪካውና እስያኖች በዓለም ሸንጎ በእኩልነት ደረጃ ድምጻቸው እስኪደመጥ ድረስ የአፍሪካና የእስያ ክፍለ ዓለም ሙሉ ሰላም አላቸው ለማለት አስቸጋሪ ይሆናል።
Bob Marley remixant le discours d'Haïlé Selassie sur RFI, l'empereur d'Éthiopie, légende des Rastas que vous avez croisé, Raymond Bonnefi, dans vos expéditions sur les pas de Lucie.
Ah ben, croisé, c'est beaucoup dire. Je crois que c'était à l'occasion d'un colloque international qui avait été organisé à Addis Abeba en 1971. Et il y avait une réception d'une petite délégation. Et je crois que j'ai été choisie comme étant la plus jeune avec Desmond Clark, un célèbre paléontologue anglais qui a fini sa carrière aux États-Unis, un préhistorien plutôt. Et donc, voilà, alors nous devions aller le saluer. Et j'ai été absolument frappée par la vivacité, la profondeur de regard aigu, presque un regard d'aigle. C'était, je me souviens plus qu'on salue. Et puis alors, ma grande préoccupation, c'était qu'il fallait saluer, mais partir en reculant de la salle.
Ah oui, parce qu'on ne tourne pas le dos.
Donc, traverser presque toute la salle à reculons. C'était le protocole.
Vous avez vécu des choses totalement extraordinaires. Est-ce que qu'est-ce qui est le plus extraordinaire peut-être pour une paléontologue? C'est quoi? C'est au moment de la découverte de Lucie, par exemple? C'est le retentissement que ça a? Comment vous pourriez, non pas résumer, mais nous faire partager ça?
Non, la découverte, c'est le travail en commun. Là, je crois que c'est le travail en commun qui m'a plu. Le travail en commun, l'énergie que cela dégage. la joie qu'il y avait aussi, le plaisir à travailler. Je dois dire que tant du camp, dans le, c'était tout à fait différent dans le camp français et américain de l'OMO et ensuite dans le camp à Hadar.
C'est d'autres, d'autres ambiances. Hein,
ouais. C'était tout à fait. J'ai essayé de les décrire toutes les trois. C'était tout à. Donc, pour moi, bon, Lucie, c'était pas mon job. C'était pas mon job. Donc, est-ce qu'on avait vraiment conscience? Bon, l'enthousiasme, je pense que c'est Donald Johanson sur le terrain qui a été.
Ce grand paléontologue.
C'est un anthropologue, c'est pas un paléontologue, mais qui était américain. Le plus. D'abord le plus motivé, et puis parce que la paléoanthropologie était plus développée aux États-Unis. Il y avait ce questionnement dans les années 70 à propos des origines. Donc il y avait cet enseignement. Qui existait pas en France parce que c'était séparé en France, c'était pas universitaire. Donc bon, nous on avait fait une découverte, oui, c'était sensationnel. Bon, vous voyez que toute découverte s'accompagne de problèmes relationnels, de compétition,
d'ego aussi particulièrement masculin que vous nous faites partager dans vos mémoires, hein, si je veux dire, sur les pas de Lucie Raymond de Bonnefille. Alors vous partagez donc ces expéditions, ce travail en commun, et puis votre travail sur le terrain de géologue, du palynologue.
Et le travail au laboratoire.
Et le travail au laboratoire qui s'ensuit absolument. Parce que quand on utilise les pollens pour la reconstitution de l'histoire des forêts et des paléoclimats en Afrique, vous êtes pionnière de cette spécialité, la palynologie qui se fait à la fois sur le terrain et en laboratoire et qui est si utile aux archéologues et aux paléontologues comme Isabelle Rouget. Elle est professeure au Muséum d'Histoire Naturelle, spécialiste des céphalopodes fossiles et du patrimoine géologique. Elle était récemment notre invitée, on l'écoute.
Les pollens, ça a la particularité, la spolopollinine, d'être extrêmement résistant, et notamment résistant dans les temps géologiques. Et c'est un outil du paléontologue qui est hyper important et qui renseigne sur beaucoup d'états de la nature passée, le climat, l'humidité, etc. Et donc des pollens, on en trouve depuis plus de 300 millions d'années. Hein. Les premiers spores, on les trouve à plus de 400 millions d'années. Et donc c'est un outil paléo-environnemental, mais crucial. Et aujourd'hui, les spécialistes de pollen se raréfient sur les temps géologiques profonds. Et si on va pouvoir observer de mieux en mieux ces pollens, peut-être qu'un jour, on n'aura plus personne pour les déterminer, mais on pourra bien les voir.
On pourra bien les voir, mais personne ne les cherchera sur le terrain, c'est ce
mais
que vous voulez
dire. Personne ne saura dire ce que c'est. En archéo, c'est un petit peu différent, parce que sur les temps archéologiques, il y a plus de spécialistes. Mais sur les temps beaucoup plus anciens, c'est très compliqué de former des gens à la systématique des pollens, à la reconnaissance des pollens, et de leur donner du travail. Et auparavant, c'était un petit peu le rôle des pétroliers, ils faisaient beaucoup ça. Et ils le font de moins en moins, ou ils ont de plus en plus de difficultés à le faire aussi. Et on forme des palynologues qui ne peuvent plus après travailler.
Vous êtes d'accord avec ce constat d'Isabelle Rouget?
Oui, c'est très, c'est très juste. Alors moi, j'ajouterais deux choses. C'est très juste. Bon, la difficulté, elle est la suivante. C'est étudier les pollens, c'est un travail au microscope. C'est un travail où il faut rester des heures à compter et à observer avec un objectif à immersion, grossi 1000 fois. Bon, donc... maintenant, c'est difficile d'abord de trouver des chercheurs qui vont faire cela parce qu'il y a beaucoup de travail avant d'avoir une publication. Et ils sont vraiment contraints, ils ont vraiment des contraintes énormes.
Et ils doivent publier, voilà. Donc ils ne peuvent plus passer autant
donc,
de temps.
Donc ils ne peuvent pas passer autant de temps. Alors, il y a un espoir. Bon, il y a un espoir de deux côtés, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est la diversité. On a conscience des problèmes environnementaux, de la diversité et de la disparition de cette diversité.
Et ça, au moins, donc, on en a conscience.
Donc. Voilà, on en a conscience. Donc, les pollens retraduisent aussi cette diversité des plantes. Moi, j'ai des échantillons. Bon, peut-être un jour, on va vouloir savoir qu'est-ce qu'il y avait, alors qu'il n'y a plus la forêt, qu'est-ce qu'il y avait à cette époque, ou même simplement dans les années 50. Donc, ensuite, on a quand même, dans la communauté internationale, mais alors ça, pour les pollens, disons, plus récents, de quelques millions d'années, hein, elle parle de
ça. Pour vous, c'est récent, hein,
voilà,
c'est ça.
C'est plus récent d'années. Que ce qu'elle parle des spores, parce que dans les temps anciens, disons, à partir de 14 millions d'années, il y a des plantes qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Enfin, peut-être quand même.
On peut recueillir des spores, mais on ne sait pas ce que ça donnait comme plante.
Oui, voilà, on ne sait pas trop ce que c'était comme plante. Oui. Le monde. Enfin, il faut dire que le monde des plantes à fleurs date à peu près de 80 millions d'années, hein, à l'époque. Voilà. Donc. Alors, il y a quand même eu, il y a quelques collections de références. La nôtre sur le plan, l'Afrique tropicale est unique au monde, ça je peux le dire internationalement. Et je voudrais essayer de la protéger, mais c'est très difficile parce qu'on ne trouve pas les moyens de protéger et d'archiver ces données correctement.
C'est que tout n'est pas encore archivé. Il y a encore énormément de travail à faire dans la collection que vous avez ramenée.
Pour un archivage, disons, un peu plus permanent. Que ce qui a duré et qui était le fait d'avoir des techniciens dans un laboratoire qui étaient les gardiens de ces collections. Donc il y a quand même des descriptions d'ouvrages. Donc ça sera pas il y a des descriptions d'ouvrages anciens, mais c'est pareil, la littérature avec Internet au-delà des années 2000, il y a pas longtemps on n'allait pas le chercher. Alors il y a ça. Et il y a un autre espoir qui est le traitement d'images.
Mais c'est ça, parce qu'aujourd'hui, voilà. C'est un peu paradoxal. On est capable d'étudier le plus petit grâce à l'imagerie, ses pollens, et le savoir.
Mais
se
perd. Là, ce sont des objets microscopiques qui ont des détails, donc il y a des volumes. En fait, il faut des ordinateurs très lourds, rien que pour un seul pollen, parce que pour l'identifier, moi, je le faisais tourner entre la lame et la lamelle sous le microscope. C'est une sorte de ballon de rugby, il faut voir toutes les faces. Parce que les faces n'étaient pas pareilles, elles sont sur une symétrie, etc. Donc, et puis, on n'apprend pas la systématique des plantes. Vous voyez, bon, Doris l'a bien expliqué, elle cherche un autre moyen. Bon, c'est normal, les chercheurs doivent trouver des choses plus rapides qui aboutissent à des résultats avec moins de travail. C'est aussi
on apprend moins la systématique des plantes.
Ah non, on l'apprend plus du tout. Elle est apprise marginalement, elle n'est même pas enseignée à l'université.
Mais c'est quand même paradoxal, parce que vous parlez effectivement d'une prise de conscience. On a effectivement aujourd'hui les outils qui permettent de manière beaucoup moins longue et pénible de les étudier. Et il n'y a plus... faudrait que vous en formiez d'autres, des palynologues.
Ce sont les sciences d'observation. C'est de la même façon que les naturalistes du 20e siècle ont laissé des fossiles qu'on ne voit aujourd'hui dans les musées. Tout le monde va... Bon, voilà. Alors, le traitement d'image, moi, justement, il y a un élève de Doris qui avait commencé un petit travail là-dessus. Ça va être long parce qu'il faut utiliser, mais je pense que peut-être si un jour on arrivait à automatiser, alors à ce moment-là, on retrouverait un développement nouveau de la palynologie.
Pour la palynologie, alors si on se projetait un peu dans l'avenir avec une nouvelle et dernière question, soulevée par un autre paléontologue, Francis Duranton, qui dirige lui le Muséum de Toulouse.
Je pense que l'Afrique, on le voit, c'est un endroit qui est véritablement l'endroit clé pour comprendre l'origine et l'évolution de l'homme. C'est, selon elle, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, est-ce qu'elle a une idée de ce que l'Afrique peut encore amener à la connaissance de l'homme au-delà de la découverte de quelques fossiles complémentaires ou autres. Quels sont les enjeux aujourd'hui des recherches qu'elle a pu mener, les enjeux actuels de ces recherches aujourd'hui sur le continent africain ?
Vous pouvez répondre à Francis Duranton, énorme question.
Énorme. Alors, c'est étonnant parce que je me disais, tiens, peut-être que j'écrirai, puisque plusieurs personnes m'ont dit, ah, ton livre, c'est bien, alors à quand le deuxième? Et alors, j'avais envie d'écrire une histoire de la végétation de l'Afrique tropicale, justement.
Ah, une préhistoire de cette végétation.
Une préhistoire de cette végétation. Alors, quand on remonte aux périodes anciennes, on n'a que quelques indices. On a quelques indices et maintenant on a aussi les méthodes nouvelles qui font qu'il y a une meilleure compréhension de l'évolution des climats grâce à d'autres études dans les océans, etc. Donc il y a beaucoup de recherches là-dessus. C'est là-dessus que se sont développées les choses nouvelles. Donc on pourrait faire une sorte de modèle à l'envers, c'est-à-dire connaissant à peu près les conditions climatiques, les positions des calottes, les circulations atmosphériques, etc. Reconstituer ou avoir un peu une idée des grands ensembles végétaux, pas des petits. Et puis là-dessus, sur ces grands schémas, avoir les points particuliers géographiques où justement on a des informations précises sur les plantes qui poussaient à ce moment-là à cet endroit. Bon, cette reconstitution, nous avions commencé avec mes élèves de la faire en Afrique pour les quelques dizaines de milliers d'années. Voilà. Donc, pour les quelques dizaines de milliers d'années, on avait eu une couverture, mettons, il y a peut-être à peine, il n'y a pas une centaine de points, mais en fait, depuis, il y a eu quelques...
Documentés,
très précises, avec des sondages dans les lacs, ou rarement dans les tourbières. Hein, voilà, donc...
Qui nous renseigne sur le passé et qui, du coup, nous renseigne pour notre présent,
absolument,
aujourd'hui et l'avenir,
voilà,
c'est ça.
Voilà, comprendre le passé, c'est comprendre le futur, parce que comprendre cette dynamique végétale sous les changements climatiques, c'est aussi prévoir les enjeux des régions qui vont être les plus sensibles et
au
changement climatique. On connaît pour la disparition des animaux, mais pour les plantes, c'est essentiel. Oui, et il y a des gens qui travaillent là-dessus. Voilà, les palynologues sont devenus des modélisateurs.
C'est ça, hein, ils sont derrière leur ordinateur, voilà, en train de modéliser et de reconstituer les climats passés,
les végétations et les climats passés.
Passés. Vous citez en exergue, hein, de votre ouvrage sur les pas de Lucie, vous citez le poète René Char, les traces font rêver.
Ah oui.
Elles vous font toujours rêver, les traces, Raymond de Bonnefille.
Eh ben voilà, oui, les traces font rêver. Et c'est dans mon ouvrage, j'ai voulu vraiment faire voyager, rêver et comprendre le continent africain. C'est-à-dire le comprendre dans sa diversité, le comprendre dans le fait qu'il est peut-être l'émergence de notre,
notre espèce,
nos ancêtres, on peut dire nos espèces, oui, parce que c'est l'émergence quand même de l'Homo sapiens. Voilà, et puis rêver comme peut-être j'ai rêvé dans cette découverte. Ce choc, comme l'a décrit aussi Yves Coppens pour la première fois, et comprendre aussi les peuples, comprendre.
Oui, parce que vous parlez beaucoup, hein, voilà, de vos liens,
oui,
sur place. Hein.
Voilà, c'était bien sûr, on a travaillé, la nostalgie de l'Afrique, où les vieux coloniaux parlaient du mal africain. Non, je sais plus comment ils disaient. Bon, c'est vrai que pendant longtemps dans ma carrière, tout en ayant fait autre chose, j'avais vraiment, si j'y allais pas de 2 ans ou de 3 ans, on avait la nostalgie.
En tout cas, merci infiniment, Raymond Bonnefille, d'être venu en direct partager un peu de cette vie de chercheuse vagabonde sur les traces de nos origines dans le Rift africain. Paris réussi, hein, pour vos mémoires, j'ai envie de dire, sur les pas de Lucie. Ça nous fait rêver, ça nous fait comprendre. Et puis bravo, parce que ça nous fait vous admirer aussi. C'est sous-titré Expédition en Éthiopie et c'est publié par les éditions Odile Jacob et préfacé par Yves Coppens. Vous revenez quand vous voulez, Raymond Bonnefille, avec votre prochain.
Ah, c'est gentil ça, mais je voudrais en profiter pour vous remercier, Pascal Pic de ce clin d'œil qui m'a beaucoup émue, et puis Yves Coppens, que je vois assez souvent et que j'aime beaucoup.
Merci à vous, Raymond Bonnefille.
Pour nous contacter, autour de la question... @rfi.fr.
Autour de la question, Hugo Violas à la réalisation et Juliette Brou en coulisses et Caroline Lachowski au micro. C'est fini pour aujourd'hui. Demain, nous vous proposons de réécouter une autre grande scientifique, l'astrophysicienne Françoise Combes, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie, autour de la vertigineuse question: comment imaginer l'univers et même la topographie des exoplanètes? Émission spéciale et spatiale à réécouter demain sur les bonnes ondes de RFI. En attendant, merci de votre curiosité, chers amis auditeurs. Gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute de RFI. Le prochain journal, c'est dans une minute.